J'ai une autre bonne question pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut trouver la solution à tous nos problèmes dans la Bible? La parole de Dieu elle-même va nous donner la réponse à cette question et à plusieurs autres, aujourd'hui, à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Écoutez bien les questions qui vont suivre. Je suis à peu près certaine qu'elles sont aussi les vôtres. Est-ce que c'est important d'être exposé aux Saintes Écritures, à la Bible? On dit que l'être humain doit se placer devant la pensée de Dieu. Mais qu'est-ce que ça signifie, la pensée de Dieu? Est-ce que Dieu connaît la nature humaine? Est-ce qu'il sait comment on fonctionne? Est-ce qu'il connaît le problème de l'homme? Est-ce qu'il connaît la solution à son problème? Quelle est la meilleure façon de comprendre la Bible? Et est-ce que c'est Dieu qui veut qu'on la mette en pratique? Demeure avec nous. La Bible va répondre à toutes ces questions. Le pasteur Régent Joly a ouvert ce merveilleux livre afin de pouvoir nous communiquer des réponses claires. Demandons à Dieu qu'il nous aide à bien comprendre cet enseignement. Prions. Mon Dieu, ouvre notre cœur. Aide-nous, Seigneur. Attendris nos cœurs pour que ta parole puisse pénétrer profondément dedans. Instruis-nous. Fais-toi connaître à nous. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, nous en sommes au conseil pour profiter pleinement de ce que les textes sacrés ont à nous communiquer de la part de Dieu. Je disais à ce sujet de prendre le temps de lire les Écritures. Nous avons un exemple dans la Bible. Dans le livre de Néhémie, il nous est rapporté un événement intéressant qui concerne la lecture commentée de la loi. Retrouvons ensemble ce texte dans Néhémie, chapitre 1er, les versets 1 à 3. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Et je rajoute un autre texte. Versets 8 et 9, toujours du même chapitre de Néhémie, 8e chapitre, les versets 8 et 9, nous lisons. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et le scribe, et les lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Il faut savoir que ces Juifs avaient été en captivité à Babylone pendant 70 ans, et beaucoup d'entre eux n'avaient jamais entendu la parole de Dieu. Peut-être est-ce que le cas de chacun d'entre nous, du moins de certains d'entre nous, peut-être même de beaucoup d'entre nous. À quand la dernière fois avons-nous entendu la parole de Dieu? Vous savez, tout comme dans le temps, elle ne circulait pas. Il y avait très peu de copies disponibles. Pour la majorité d'entre eux, c'était une découverte. Et le peuple québécois est en train de découvrir la parole de Dieu. Non seulement les scribes lisaient, mais ils expliquaient le sens des paroles et sans doute répondaient aux questions s'il y en avait. Peut-être que vous avez quelques-unes de ces questions, vous aussi, en mémoire présentement. Pourquoi pas les mettre sur papier et nous les envoyer, nous les écrire? Ça nous ferait plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Il doit en surgir énormément à votre esprit présentement. Depuis que vous avez commencé à écouter ces émissions à travers la Bible, vous découvrez le message de Dieu. Je suis intéressé par le fait que la lecture était suivie de commentaires par des hommes en qui, de toute évidence, le peuple avait confiance. C'est ce que je vais m'efforcer de faire tout au long de ces émissions, chers amis. Expliquer le texte au mieux de mes possibilités et gagner votre confiance autant que possible. Et bien sûr, vous encourager à poser les questions, soit en nous les faisant parvenir par courrier ou via courriel. Puis-je vous conseiller de lire les textes sacrés? D'une façon particulière et régulière. Et ensemble, au fur et à mesure, nous allons avancer à la suite de ces émissions, je vais vous rappeler une nouvelle fois combien il est grand de comprendre et de saisir toute la portée de la pensée de Dieu. Mettre en lumière cette sublime originalité de ces textes sacrés, des lettres inspirées du Nouveau Testament, pour puiser dans leur inépuisable profondeur, dans leur admirable simplicité, dans leur clarté, leur universalité, le fait qu'elles sont pertinentes pour tous et chacun. Peu importe l'époque, la langue, la culture, elles sont toujours présentes. C'est pourquoi, chers amis, vous qui m'écoutez, bénéficiez grandement de la découverte des saintes écritures, ces écritures inspirées du Dieu créateur. Un autre conseil que je vous donne, c'est de méditer les passages bibliques qui semblent vous attirer ou vous parler plus particulièrement. Ne lisez pas au hasard, prenez un livre et lisez-le verset par verset, chapitre par chapitre. L'influence que ces écrits peuvent avoir sur votre vie est inestimable. Tout le monde a entendu parler de la méditation, méditation transcendantale et du bouddhisme en particulier. Dans les Écritures, aussi il est question de méditation. Laissez-moi vous citer un texte tiré du 5e livre de la Bible, écrit par Moïse, le Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 9. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. En d'autres mots, les commandements de Dieu devaient figurer partout dans la vie des Israélites. Dans les pays dits civilisés, comme le nôtre, d'énormes panneaux publicitaires attirent nos regards dans le but de nous encourager à consommer le produit en question. On les trouve partout sur nos routes et sous forme de belles images glacées dans les magazines ou dans nos boîtes à lettres. Cette publicité est constamment devant nos yeux ou dans nos oreilles et a une forte influence sur notre comportement de consommateur, car ça marche plutôt bien. On est même prêt à payer des millions de dollars pour annoncer notre produit au Super Bowl ou bien dans nos séries éliminatoires de hockey. Pourquoi? Parce qu'on sait que la publicité influence le comportement du consommateur. Nous sommes ainsi incités à acquérir de la marchandise dont nous pourrions le plus souvent fort bien nous en passer. Dieu, bien évidemment, connaît très bien la nature humaine. Il sait comment nous fonctionnons et c'est pourquoi il a voulu que le peuple d'Israël ait constamment sa parole devant les yeux et à l'esprit afin d'y penser, d'y réfléchir et de la méditer afin de la mettre en pratique. publique. Voilà ce que nous avons besoin, d'être exposés aux saintes Écritures, afin de pouvoir changer notre comportement, d'en être influencés. Ces commandements devaient être inscrits sur le montant de porte, sur leur portail d'entrée et même sur leurs habits. Et les Israélites devaient en parler entre eux dans leurs déplacements, quand ils s'asseyaient à table et jusque dans leur lieu de repos. Dieu leur demandait de méditer sa parole à tout moment. Et pour que nous comprenions bien de quoi il s'agit, le Créateur nous a donné les ruminants. Vous avez déjà vu une vache brouter de l'herbe dans les champs? Eh bien, nous sommes appelés à ruminer la parole de Dieu afin qu'elle produise le produit désiré par Dieu dans notre cœur, dans notre vie. En effet, c'est ce que la vache fait lorsqu'elle rumine. Elle mâche inlassablement la même herbe. Elle va s'étendre sous un arbre ou se réfugier dans un abri, et elle rumine, toujours elle rumine. Eh bien, c'est cela, la méditation, chers amis. Sommes-nous prêts à ruminer la parole de Dieu à notre esprit et dans notre cœur? Ça consiste à tourner, à retourner dans tous les sens les mêmes choses dans notre esprit. On pense à un passage, on y réfléchit, si possible on en parle, et on le met en pratique dans sa vie de tous les jours. Là, je le conçois. On est loin de ses occupations, hein? On veut vivre tout à fait autre chose que la parole de Dieu. À tous les jours, nous sommes assaillis par toutes sortes de télévisions, de boîtes de nuit, des choses qui peuvent nous amuser, nous empêcher même de penser. L'homme ne veut plus penser. L'homme ne veut plus s'arrêter pour penser à qui il est et quel est le but de son existence. Dieu nous dit dans sa parole, « Chers amis, arrêtez-vous, prenez le temps d'abord de réfléchir sur cette vie afin d'en profiter pleinement, de vivre pleinement votre vie. » Réfléchissons, pensons sur les choses qui sont vertueuses et qui appartiennent au sacré. Ceux qui se contentent de vivre de frissons auront du mal à comprendre l'intérêt de la méditation des textes sacrés. L'homme n'est pas fait que de sentiments et d'émotions. Il a besoin également de réfléchir, de raisonner. Dans le livre des Actes des Apôtres, écrit par l'apôtre Luc, il y a l'histoire d'un dignitaire éthiopien qui, cheminant sur son chariot, lisait sans le comprendre un texte de l'Ancien Testament écrit par le prophète Ésaïe. C'est alors que surgit un évangéliste du nom de Philippe, un des responsables de l'Église originelle. Celui-ci lui explique alors le passage en question qui porte sur la signification de la mort du Messie, sur la venue et le pourquoi de la venue du Messie. Suite à quoi, ce dignitaire demanda à se faire baptiser comme témoignage de son acceptation du message de délivrance que lui avait donné Philippe en rapport avec les Saintes Écritures. Ensuite, il est écrit que le dignitaire éthiopien poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Et pourquoi était-il tout joyeux? Parce qu'il continuait à penser à ce qui lui était arrivé, à réfléchir et à méditer sur ce que représentait pour lui la mort du Christ sur la croix, c'est-à-dire le pardon de tous ses péchés, de toutes ses offenses faites à l'égard de Dieu. Ce ne sont pas les choses éphémères qui satisfont notre cœur, mais celles dont la portée est éternelle, car chacun d'entre nous a une âme immortelle qui a soif d'infini. Et si vous voulez relire ce texte que je viens de mentionner en rapport avec les Saintes Écritures, les personnages, ce dignitaire éthiopien et Philippe, Vous pouvez le trouver dans le livre des Actes, chapitre 8, les versets 26 à 40. Un autre conseil auquel j'ai déjà fait allusion consiste à obéir à ce que nous avons compris de la parole de Dieu. Nous lisons, nous réfléchissons, nous méditons, mais aussi nous obéissons aux Saintes Écritures. Abraham, nous verrons ce personnage dans le futur, lorsque nous aborderons le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Dieu s'est adressé à lui, dans Genèse chapitre 12, verset 1er. Dieu demande à Abraham de quitter son pays pour se rendre vers la terre promise. Eh bien, lorsqu'il reçut cet appel de quitter sa ville Ur, une grande ville florissante, il obéit et Dieu lui apparut. Il obéit et il put vivre une expérience mémorable, inoubliable, avec son Dieu créateur qui venait de se révéler à lui dans son intimité. Lorsqu'Abraham arriva au pays promis où Dieu lui avait dit d'aller, il y dit que l'Éternel se manifesta à lui à nouveau. Cependant, lorsqu'il se rendit de lui-même en Égypte pour fuir une famine sans que Dieu ne lui ordonne, il ne reçut aucune révélation. Dieu se révèle lorsque l'être humain est prêt à obéir, à faire et à exécuter la volonté de Dieu. En revanche, Abraham, dès qu'il fut de retour dans le pays promis, qu'apparemment il n'aurait jamais dû quitter, Dieu se révèle à nouveau à lui. Lorsque nous sommes dans le plan de Dieu pour notre vie, nous pouvons être en communion avec Dieu et être en relation avec lui par les Saintes Écritures. Dieu peut nous guider, diriger nos pas dans notre vie de tous les jours. Ainsi, Dieu se manifestait à Abraham lorsque celui-ci obéissait aux directives qu'il avait reçues et comprises. Il en est de même pour nous, chers amis. Dieu nous révèle de nouvelles vérités lorsque nous obéissons à celles que nous avons déjà apprises. Nous devons accepter de nous laisser transformer, laisser Dieu nous interpeller, agir en nous, faire le ménage et changer les choses qui travaillent notre conscience. L'obéissance dans la foi, c'est-à-dire obéir en faisant confiance à Dieu, est le principe directeur fondamental qui régit toute la relation de Dieu avec sa créature et qui est enseigné constamment tout au long des Écritures. Un jour, lors d'une conférence pour pasteurs, 4 d'entre eux se mirent à discuter des mérites de diverses traductions de la Bible. Le premier préférait celle-ci en raison de son style simple et digne. Le second aimait plutôt celle-là qu'il jugeait plus proche de l'original. Le troisième en préférait encore une autre en raison de son langage courant et donc facile d'accès. Le quatrième ne disait rien. Lorsqu'on lui demanda son opinion, il répondit que sa traduction préférée était celle de sa mère. Car elle traduisait l'enseignement de la Bible dans sa vie de tous les jours. Sa mère était une Bible vivante. On pouvait y voir et y lire les Saintes Écritures parce qu'elle les mettait en pratique dans sa vie. Effectivement, voilà bien la meilleure des traductions. Un auteur anonyme a écrit ceci à ceux qui se disent fidèles à la parole de Dieu. Je cite. « L'Évangile est rédigé, un chapitre par jour, écrit par nos actes et nos paroles. Les hommes lisent ce que nous écrivons ainsi. Dites-moi, que dit l'Évangile selon vous? » Fin de la citation. Devrions tous annoncer un message de notre Créateur, les gens devraient tous lire en nous ce message divin. Où en sommes-nous? Que faisons-nous de ces saintes Écritures? Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul écrivait à une église qu'il avait implantée quelque part en Asie les paroles suivantes. Et je cite, « Notre lettre de recommandation, c'est vous-même. Vous êtes une lettre écrite dans notre cœur que tout le monde peut connaître et lire. Cette lettre a été écrite, non avec de l'encre, mais par l'Esprit de Dieu vivant sur des tablettes de chair sur vos cœurs. » 2 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. Ce serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, dit en substance à ses chrétiens qu'ils lui sont très chers et qu'il les porte dans son cœur, ce que tout le monde peut voir, et de plus qu'ils sont aussi la preuve de l'influence positive que lui, Paul, a eue auprès d'eux. Chers amis, c'est d'une part une relation d'amour entre Dieu et ceux qui marchent avec lui par la foi, ceux qui lui ont fait confiance, et d'autre part, cette grande affaire de cœur est aussi une relation affective des croyants entre eux. Ce qu'il faut surtout retenir de ce passage, c'est que le vrai christianisme est une grande affaire de cœur, de relation. Un dernier conseil que je voudrais donner, en plus de suivre quotidiennement ces émissions, c'est de vous procurer aussi une Bible, et de commencer à la lire par vous-même, en commençant peut-être par l'Évangile de Jean, dans le Nouveau Testament. C'est le plus facile, et celui qui met davantage l'accent sur le Christ en tant que Dieu fait homme et sauveur. Vous pouvez aussi participer à une étude biblique. Assurez-vous bien que le sujet soit la Bible, que l'enseignement soit fidèle au texte et non pas ce qu'un gourou quelconque pense. Mes chers amis, que vous puissiez devenir à l'exemple des gens de Bérée. Qui sont ces gens de Bérée? Nous les retrouvons dans le livre des Actes, chapitre 17, versets 11 et 12. Alors que Paul et Silas, deux serviteurs de Dieu, entrèrent dans leur synagogue, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous voulez connaître les résultats? Verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Examinons les saintes Écritures, et lorsqu'on nous apporte des enseignements, allons vérifier dans les saintes Écritures ce que Dieu a à nous dire. Chaque jour, à chaque instant que nous serons exposés à ces saintes Écritures, vous allez bénéficier de la présence et d'une rencontre personnelle avec Dieu. Dans la prochaine émission, nous allons poursuivre et examiner davantage ce que c'est qu'une étude biblique. L'émission va être un peu plus technique, mais soyez présents, car moi j'y serai, afin de pouvoir regarder ensemble comment expliquer les saintes Écritures.
Eh bien, merci Régent. C'est maintenant clair que la solution à tous nos problèmes est écrite dans la Bible. Et surtout la solution à notre problème majeur, notre séparation d'avec Dieu. Jusqu'à l'âge de 30 ans, je sentais un vide au-dedans de moi. Je cherchais l'amour, je cherchais la justice, mais j'arrivais pas à les trouver. J'étais déçu en amour, et pourtant ceux que j'aimais ne me maltraitaient pas. Ils m'aimaient aussi bien qu'ils en étaient capables. Mais un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a parlé de Dieu, de son amour manifesté en Jésus-Christ. J'ai appris qu'il avait tant aimé le monde, qu'il avait donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, on pouvait ne pas périr, mais avoir la vie éternelle. Alors j'ai trouvé la solution à mon problème. Mon problème étant d'être séparé de Dieu. Et quand j'ai accepté Jésus pour mon Sauveur, pour mon Seigneur, il est entré dans mon cœur, et là j'ai repris contact avec lui. Là, j'étais vraiment une enfant de Dieu créé pour sa gloire. Et la joie est entrée. Je comprenais tout. J'avais plus ce problème majeur d'être séparé de lui. Puis je me suis mise à lire la Bible. J'ai découvert de plus en plus à quel point Dieu m'aimait. J'étais plus séparée de lui. Comme c'est extraordinaire. Jésus était la solution à mon problème majeur. Puis l'ayant reçu comme mon sauveur et Seigneur, j'étais vraiment tout près de lui. Je pouvais goûter sa présence. Je pouvais lire à n'importe quelle heure de la journée dans la Bible et comprendre ce qu'il voulait dire à mon cœur. J'étais unie à lui. Unie à Dieu. Imagine comment c'est d'être unie à notre Créateur, celui qui veut notre bien, celui qui veut nous amener avec lui dans son éternité. Puis j'ai découvert aussi plein d'autres solutions à d'autres problèmes en lisant la Bible. Je me souviens, la première fois que j'ai lu dans les Proverbes, j'ai découvert tellement de richesses. Par exemple, dans le Proverbe 28:13, c'est écrit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Je trouvais ça merveilleux de dire « Ben oui, c'est ça que j'ai fait. J'ai avoué mes transgressions, je me suis reconnue pécheresse, je me suis repentie, j'ai avoué, j'ai délaissé, et puis j'ai obtenu miséricorde parce que j'avais la foi en Jésus-Christ. » Puis un peu plus loin, au verset 27 du même chapitre, c'est écrit « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. » Puis ça, je l'ai vécu. Je me souviens, toute jeune sauvée, j'avais été dans une famille de gens qui étaient vraiment dépourvus de biens et de biens matériels surtout. Ils avaient à peine de quoi manger. J'avais eu à cœur d'aller leur faire une commande d'épicerie. Puis là, j'arrive là avec les bras pleins, toute excitée, toute contente. Comme tout enfant de Dieu aime faire d'ailleurs, Dieu met sa générosité dans nos cœurs. Et puis, j'étais contente de faire ça. Puis après ça, j'ai oublié que j'avais fait ça. Et pas longtemps après, peut-être un an ou deux ans plus tard, j'ai éprouvé un temps de disette moi aussi. Et puis, il m'est arrivé la même chose. Il y a des gens qui sont arrivés chez moi avec les bras pleins. Et puis là, je me suis souvenu du proverbe 28:27 qui dit « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. » J'aurais pu éprouver une vraie disette, mais Dieu a pourvu à mes besoins, tantôt dans des temps où j'étais un peu plus fortunée et d'autres moments où j'étais moins fortunée que quelqu'un venait à mon secours, sans même que je le dise aux autres. Alors Dieu aime pourvoir à nos besoins aussi. Et il pourvoit à tous nos besoins, spirituels, matériels. Alors, c'est bon d'être un enfant de Dieu et de savoir qu'on a l'amour d'un Père qui prend soin de nous à chaque jour et à chaque instant.
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous! Vous pouvez recevoir par le feu même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offert à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformée par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Ici Régent Joly qui vous dit à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.